En réfléchissant cette semaine, en priant, j'avais deux messages en tête, deux thèmes, deux messages, et j'ai bagarré un peu pour savoir lequel partager en fait. J'en avais un qui parlait de l'épreuve et qui était orienté donc vers la question des épreuves que l'on vit, etc. Et est-ce que la période actuelle, c'est une épreuve? Il y a des bien-aimés qui partent, qui vont au ciel, alors qu'a priori, si c'était pas cette maladie, ben, ce n'était pas prévu. Il y a ce temps de confinement, il y a des familles qui vivent bien le confinement, puis il y en a qui le vivent moins bien, etc. Donc, ce n'est pas simple. Là, en tête, mais après, en y réfléchissant, j'ai choisi d'autres thèmes, en fait, dans le sens où, d'abord, je crois que les deux précédents messages, des deux semaines précédentes, celui de David et celui de Farid, ont vraiment beaucoup apporté sur ce sujet, et beaucoup d'encouragement et beaucoup d'explications. Et donc, je trouve que c'est bien. Et puis, donc, j'ai choisi un autre thème que je vais vous partager. Pour ça, j'aimerais qu'on prenne ensemble, si vous avez votre Bible, dans le Deutéronome. On va lire dans le Deutéronome. Je remercie le Seigneur pour la parole prophétique qui a été donnée par Véro, qui nous a rappelé un épisode de la vie d'Israël, qui est vraiment cet épisode difficile, puisque pendant 40 ans, ils ont été, j'allais dire, confinés dans le désert. Et pendant 40 ans, ils ont vécu à la fois quelque chose d'extraordinaire, de formidable, mais en même temps quelque chose de difficile et de nouveau, et avec beaucoup d'épreuves au quotidien et beaucoup d'habitudes anciennes qui ont été changées, etc. Et donc, on va lire dans le Deutéronome au chapitre 8. Je vous propose de prendre à partir du verset 20, au verset 2, pardon, jusqu'au verset 11. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le bon pays, un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'olivier et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Donc ce texte. C'est vrai que c'est bizarre de parler sans avoir de retour. Ce texte nous parle d'Israël dans le désert. Et le cœur de ce texte que je voulais vous partager ce matin se trouve donc à la fin du verset 3. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est une parole importante. C'est une parole que Jésus va reprendre dans l'Évangile en disant, effectivement, en citant cette parole, en disant que l'homme ne vit pas simplement de pain, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de la parole de l'Éternel. Et en fait, j'avais envie de partager ce matin sur comment rester en éveil, comment rester à l'écoute de Dieu. Véro nous disait tout à l'heure que pendant ses 40 ans dans le désert, Israël a toujours vécu une épreuve, ça a été difficile, mais Israël en même temps a toujours été protégé et guidé. Et elle a beaucoup insisté sur ce côté d'être guidé, d'être conduit. Quand on regarde leur périple, on a l'impression qu'ils ont erré, qu'ils ont tourné en rond finalement dans le désert. Mais quand on voit ce qui s'est réellement passé, en fait non, ils n'ont pas tourné en rond dans le désert. Dieu les conduisait. Il y avait cette nuée de jour et ce feu la nuit, ces colonnes qui étaient là et qui conduisaient le peuple. Et donc c'est pour ça que ce que je partage ce matin, c'est quand même en lien bien sûr avec l'épreuve qui est vécue actuellement. Et ce texte nous donne deux raisons pour lesquelles le peuple a vécu cette épreuve. Au verset 2, il nous est dit « pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur ». Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Alors là, dans le texte, il nous est dit que c'est Dieu qui a éprouvé Israël en l'amenant dans le désert. C'est à interpréter avec d'autres textes. Parfois, effectivement, c'est Dieu qui provoque l'épreuve. Parfois, c'est Dieu qui simplement la permet. Mais en tout cas, dans toute épreuve, quelle qu'en soit la cause, le chemin, l'origine, et on n'a pas toujours besoin de chercher, il y a plein de gens en ce moment qui cherchent, hein, pourquoi cette épreuve, à cause du péché dans le monde, à cause de mille raisons, parfois conspirationnistes, parfois pas. J'allais dire, peu importe, c'est pas mon sujet ce matin de parler sur l'origine de l'épreuve, mais sur le rôle de l'épreuve dans nos vies, ou sur à quoi elle sert en fait, cette épreuve dans nos vies. Et une des premières, c'est donc ce verset 2, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et c'est vrai que le fait de passer par une épreuve, ça teste nos entrailles, j'allais dire. Ça teste ce qu'on a au plus profond de nous. Ça teste nos intérêts, nos affinités, nos désirs. Ça teste vraiment ce qu'on a dans les tripes, j'allais dire. Et puis la deuxième raison de cette épreuve qu'a vécu Israël dans le désert, c'était donc ce qu'on a lu au verset 3, « afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et ce matin, je voudrais qu'on partage un petit peu à ce sujet. Comment rester dépendant de ce qui sort de la bouche de Dieu ? En fait, je vais partager rapidement quatre clés de la vie chrétienne. Et je partagerai aussi trois valeurs et trois anti-valeurs. Voilà, c'est un petit peu ça le plan de mon message ce matin. Quatre clés de la vie chrétienne, trois valeurs et trois anti-valeurs. Alors, la première clé, c'est la Bible. C'est la Bible. J'ai été interpellé récemment par un verset dans l'Exode, c'est Exode chapitre 33, verset 13. Je vais vous le lire, Exode 33, 13. « Maintenant, c'est Moïse en fait qui parle à Dieu. Et Moïse prie et dit à Dieu, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Je trouve qu'il y a une espèce de cycle, de cercle dans c'est un petit peu comme la roue qui a été décrite avec Jésus au centre, avec Dieu au centre. Moïse dit à Dieu, ben écoute, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc Moïse est conscient déjà qu'il a été gracié et que l'origine de la grâce, c'est Dieu qui en est l'origine, c'est pas nous qui en sommes l'origine, c'est lui qui nous a choisis. Jésus a dit, je vous ai choisis. Et donc, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Véronique parlait beaucoup tout à l'heure, je le rappelais, d'être guidé, que le peuple a été guidé pendant ses 40 ans dans le désert. Et là, Moïse demandait, fais-moi connaître tes voies. Donc, les voies, ben, c'est les chemins, c'est la pensée de Dieu, c'est ses commandements, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comment il faut être, etc. C'est vraiment, j'avais regardé dans le texte hébreu, c'est vraiment, fais-moi connaître tes chemins, pour que je puisse marcher dans tes chemins, en fait. Et puis, la conséquence de ça, et c'est ce qui m'interpelle aussi, alors je te connaîtrai. Moi, j'avais souvent l'impression, et on a souvent l'impression, et ce n'est pas faux, que d'abord, on connaît Dieu, et quand on le connaît, ben, il nous montre ses chemins. En fait, Moïse, là, dit, c'est, en fait, non, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est le contraire. Dieu nous fait connaître ses voies, et quand on connaît ses voies, eh ben, on découvre que c'est lui qu'on connaît. Et ça, c'est très important. C'est vrai, alors, on peut prendre l'exemple des enfants. Un enfant, avant de connaître vraiment son Seigneur, eh bien, on lui enseigne les voies. On lui enseigne à l'école du dimanche, on lui enseigne à la maison, on lui enseigne par des livres, etc. On lui enseigne un chemin. Et sur ce chemin, quand il va connaître ce chemin, quand il va emprunter ce chemin, il va découvrir qu'en fait, il connaît Dieu. Et il va découvrir ce Dieu qu'il rencontre sur ce chemin. Et là, l'autre conséquence, c'est « et je trouverai encore grâce à tes yeux ». Et donc, on revient de nouveau à l'origine, c'est-à-dire à la grâce. C'est-à-dire que la grâce abonde et surabonde quand on connaît les voies de Dieu, parce qu'elles nous font connaître Dieu, et qu'à ce moment-là, la grâce encore descend. Donc, la première clé pour notre vie chrétienne, ben, c'est la Bible. Parce que où mieux connaître les voies de Dieu que dans la parole de Dieu? Et concernant la Bible, il y a une injonction intéressante de Paul à Timothée, à son disciple, à son enfant Timothée. C'est dans 1 Timothée 4, 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Et la première clé dans nos vies, c'est la lecture de la Bible. Et je pense que c'est intéressant dans cette période de confinement, dans cette période où même pour ceux qui travaillent, les rythmes sont tout de même différents, il y a plein de choses qui changent, l'importance de la lecture de la Bible. Il y a peut-être des Bibles dans nos foyers ou dans certaines chambres qui commencent à prendre la poussière. Mais je pense qu'il faut dépoussiérer un petit peu nos Bibles. Non pas en passant le plus beau pour faire partir la poussière, mais en les ouvrant. Et je crois que c'est vraiment une clé importante que je voulais partager ce matin, reprendre la lecture de la Bible. Il y a une deuxième clé que je voudrais vous partager ce matin et qui est importante. Cette deuxième clé, c'est la Bible. La Bible, la méditer et la prier. Le psaume 1 est un psaume magnifique et ce n'est peut-être pas par hasard que c'est le premier des psaumes. Qu'est-ce qu'il nous dit ce psaume ? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, donc dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Ça montre bien, si le psaume a été écrit par David, que David avait cette conscience que la parole de Dieu a une place dans nos vies, que la lecture de la parole de Dieu a une place dans nos vies, mais bien plus que la lecture, la méditation. Parce qu'on ne peut pas lire la Bible toute la journée, d'accord ? En revanche, on est encouragé à méditer la Bible. On est encouragé à prier la Bible. Et c'est David lui-même qui va dire, mais ta parole, c'est l'objet de mes chants. Dans le livre de Josué, là encore, c'est peut-être pas un hasard, si c'est au premier chapitre, verset 8, que je vais vous lire, Josué 1, 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a même une promesse de bénédiction dans la méditation des Écritures. Je vous fais remarquer un petit verset, une petite parole de ce verset du livre de Josué. Que ce livre ne s'éloigne pas, non pas de tes yeux pour la lecture, mais de ta bouche. Alors, en fait, je dis pas de la lecture, mais en fait, je pense que la lecture à haute voix de la parole de Dieu peut être utile. Moi, je vous encourage, si vous le pouvez, quand vous le pouvez, à, quand vous lisez votre Bible, à ne pas la lire intérieurement, mais à la lire en la parlant. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on entend aussi ce qu'on lit. Et il nous est dit, médite-le, ce livre de la loi, médite-le jour et nuit. Comme dans les psaumes déjà, il sera écrit plus tard, déjà du temps de Josué, c'était une méditation jour et nuit. C'était vraiment collé à l'écriture, c'était vraiment être en lien constant avec les écritures pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. À ce moment-là, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. La troisième clé que je voulais vous partager ce matin, pour nos vies chrétiennes, cette troisième clé, en fait, c'est la Bible. La Bible, l'étudier et l'apprendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez avoir lu ça dans l'Écriture, mais on va le relire parce que ça y est. Est-ce que vous vous souvenez de ce que devait faire, la première chose que devait faire un roi d'Israël lors de son intronisation? Quand on intronisait un roi en Israël, il avait un acte à faire en tout premier, qui était la priorité de toutes. Ben, je vous lis dans Deutéronome 17, au verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, donc dans un rouleau, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. C'est assez impressionnant que la première chose qu'un roi d'Israël devait faire quand il était intronisé, quand il démarrait son règne, c'était de recopier la Torah. Recopier le livre de cette loi, c'est en fait le Pentateuch, les cinq premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Le roi était intronisé, il y avait sûrement une cérémonie, puis après on lui disait, tiens, maintenant voilà le rouleau, ou plutôt voilà les cinq rouleaux, à toi de jouer, tu les copies. En y réfléchissant, je me disais, peut-être ce serait intéressant, avant de nommer un pasteur, avant qu'un pasteur rentre dans son ministère, ou avant qu'un chrétien, je ne sais pas, se fasse baptiser, ou rentre dans son appel, ou, eh bien, qu'on puisse lui dire, écoute, ça c'est extraordinaire, mais maintenant tu vas copier Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Puis après, tu vas pouvoir agir. Après, tu vas pouvoir rentrer dans ce que tu es appelé à faire. Alors, pour nous, ce serait peut-être, eh bien, tu vas recopier les quatre évangiles. Tu vas recopier le livre des Hébreux. Tu vas recopier, etc. Je trouve que c'est intéressant, ça. Et ça me parle beaucoup. L'important, ce n'était pas que le roi lise seulement le texte. Parce que ça, j'allais dire, il y avait des scribes, il y avait les lévites qui étaient là pour recopier les textes. On aurait pu lui dire, tiens, mais il va y avoir un nouveau roi, donc on va écrire de nouveaux rouleaux pour pouvoir les donner au roi, comme ça il les aura toujours avec lui pour aller lire. Non, non, ils étaient payés pour ça, mais celui-là, ce livre-là, ces cinq livres-là, ce n'étaient pas eux, les scribes, ou les lévites qui devaient le recopier, c'était le roi lui-même. Et je n'ai pas compté le nombre de chapitres, mais vous voyez ce que c'est. Copier la parole de Dieu. Et en la copiant, alors il fallait bien sûr, la parole de Dieu étant sacrée, Il y avait une façon de la copier en Israël, hein, donc avec une vérification, ça se faisait très lentement. C'était pas avec l'écriture de médecin, vous savez, hein, avec la fin des mots qui sont des traits, etc. Non, c'était recopier. Et je pense que l'idée derrière ça, c'était que le roi d'Israël devait étudier, devait apprendre, devait passer du temps, et que ça devait être sa priorité. La première chose, si tu veux réussir ta vie, apprends l'écriture, comprends l'écriture. On parlait tout à l'heure de nos enfants, il y a eu des paroles prophétiques données sur les familles, sur les enfants. Je pense que l'écriture a quelque chose, l'étude de l'écriture a quelque chose de très important pour les enfants, pour la réussite dans la vie et pour rentrer dans l'appel de Dieu. La quatrième clé dans la vie chrétienne que je voudrais partager ce matin, alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, j'aurais pu choisir d'autres clés, parce qu'il y a beaucoup de clés pour la vie chrétienne, mais je pense que Dieu a insisté pour que je vous partage sur ces quatre clés. Et la quatrième clé de l'écriture, de la vie chrétienne, c'est la Bible. La Bible, l'enseigner. Paul, quand il écrit à Timothée, il lui a dit, tout à l'heure je l'avais déjà cité, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture des Écritures. Mais il ne se limite pas à ça. Dans Timothée 4:13, il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à l'exhortation et à l'enseignement. Et une des clés par rapport à la Bible dans nos vies, c'est non seulement de la lire, non seulement de la méditer, c'est-à-dire de la ruminer, de la murmurer, de la prier, de l'utiliser comme soutien pour prier, de prier sur les promesses de la Bible. C'est pas seulement peut-être de la recopier, c'est pas seulement de l'étudier ou de l'apprendre. Farid nous partageait la semaine dernière comment eux, dans leur famille, ils ont décidé d'apprendre un verset par jour. Et c'est extraordinaire. Il faut, je pense, connaître les textes bibliques par cœur. Mais Paul va encore un peu plus loin, et en cela, il est totalement dans la tradition d'Israël, c'est enseigner la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la transmettre, cette parole. Cette parole, elle est pour toi, elle est pour que tu la rumines, pour que tu l'accueilles, pour que tu vives avec elle, pour que ce soit ta vie, que tu vives des paroles de la bouche qui sortent de la bouche de l'Éternel et pas seulement de pain. Mais cette parole, tu la transmettes à d'autres. Et en fait, une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'enseigner. Une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'enseigner. Dans le Deutéronome, au chapitre 6, au verset 7, et on revient là à la notion de famille, il nous est dit, c'est pour ça que j'ai dit que Paul était totalement dans la tradition du discipulat, mais plus que ça, dans la tradition des familles d'Israël, Deutéronome 6, verset 7, « Ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » On voit bien cette de la transmission. La transmission. Voilà, je voulais vous partager ces quatre clés qui me semblent importantes pour la vie chrétienne. La première clé, c'est la Bible. La deuxième clé, c'est la Bible. La troisième clé, c'est la Bible. Et la quatrième clé, c'est la Bible. Et j'ai dit que je voulais vous partager aussi trois valeurs et trois antivaleurs. Les trois valeurs qui me semblent capitales dans ce contexte, c'est la première valeur de la curiosité. L'importance de la curiosité. Je pense que ça fait, je crois, 4 chrétiens que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je suis devenu un lecteur assidu de la Bible. Et je loue Dieu pour la curiosité qui m'habite encore. Après 40 ans de lecture et d'études, je suis toujours curieux tous les matins de voir ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Et ça, c'est formidable. Parce que je pense que si je vis jusqu'à 120 ans comme Moïse, dans la 120e année, je vais être encore assoiffé de Dieu et curieux. Première valeur, la curiosité. Deuxième valeur, l'émerveillement. C'est vraiment important de rester des gens qui savent s'émerveiller. Alors, c'est vrai par rapport à la Bible, c'est vrai dans la vie tout court. Les gens qui ne savent plus s'émerveiller sont des gens tristes. Alors, s'émerveiller de plein de choses, hein, d'un paysage, d'un enfant, d'une remarque, d'une parole, d'un texte de la Bible, d'une méditation, d'une révélation que Dieu nous donne. L'importance, la curiosité, l'importance de l'émerveillement. Et puis, la troisième valeur que je voulais vous partager aussi, c'est l'importance de la crainte de Dieu. Non pas de la peur de Dieu, on le sait bien, je ne vais pas revenir dessus. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, mais c'est de dire vraiment, quand je m'approche de la Bible, c'est ce Dieu-là qui est extraordinaire, ce grand Dieu qui a fait l'univers, qui est là et qui me parle. L'importance de la crainte de Dieu, l'importance donc de rentrer dans ses paroles, l'importance de la discipline, l'importance de se régaler tout simplement de rencontrer ce Dieu dans l'Écriture. Il y a trois anti-valeurs que je voulais vous citer, qui sont un peu les pendants de ce que je viens de partager. Une anti-valeur qui est vraiment moche, c'est le fait d'être blasé. Je prie Dieu que jamais je ne sois blasé. Je prie Dieu que jamais vous ne soyez blasé. Vous savez, les gens blasés, c'est les gens qui ont tout vu, qui ont tout compris, qui ont déjà tout lu, ils ont tout, ils savent tout. Vous parlez avec eux, puis « Ah oui, mais tu sais », puis ils ont tout vu. Donc, tout perd du goût. C'est l'antithèse de la curiosité et l'émerveillement. Le fait d'être blasé. Il y a une autre anti-valeur qui peut être catastrophique quand elle nous atteint en tant que chrétien, c'est le cynisme. Devenir cynique. Vous savez, le cynique, ce n'est pas celui qui est blasé, c'est pas sûr. Enfin, il est aussi blasé de toute façon, il a toujours tout vu, tout compris. Mais le cynique, c'est celui qui va prendre ça avec un petit sourire en coin. C'est un peu le moqueur, c'est un peu le dédain. Et la Bible nous dit, ne t'assois pas, ne t'assieds pas à côté du moqueur. C'est celui qui va relativiser. C'est, effectivement, Jonas, il a été 3 jours dans le ventre du poisson. Oui, effectivement. Puis, vous savez, toutes ces remarques qu'on peut avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, bien sûr, quand on n'est pas chrétien, mais ça, c'est un peu logique. Mais aussi, on peut devenir cynique vis-à-vis d'un certain nombre de choses, vis-à-vis de frères, vis-à-vis de certains ministères qui existent, etc. Et puis la troisième non-valeur que je voulais citer ce matin et de laquelle on doit se méfier, c'est bien sûr l'incrédulité. L'incrédulité. Pourquoi ? L'incrédulité, c'est ne pas ajouter foi, c'est ne pas rencontrer Dieu dans sa parole, c'est ne pas rencontrer la parole, l'écriture et la faire sienne. L'incrédulité, je dirais dans ce contexte, c'est se détacher. C'est s'éloigner de la parole. Et s'éloigner de la parole, c'est s'éloigner de Dieu. Et je pense que c'est trois choses qui sont vraiment à laisser de côté. Je vais m'arrêter là. J'avais prévu, mais je n'ai pas le temps de le faire, de vous donner quelques petits conseils par rapport à l'écriture. Mais bon, peut-être soit on vous l'enverra, soit de toute façon vous les connaissez déjà, tous ces conseils pour lire l'écriture. De ne pas se fier au hasard, d'avoir parfois un rythme systématique, soit la Bible en un an, soit de suivre d'autres guides de lecture, etc. De ne pas toujours lire les livres qu'on a déjà lus 10 fois, mais peut-être d'aller voir le livre qu'on a lu qu'une fois ou qu'on n'a pas lu même une seule fois, etc. Mais bon, j'ai pas le temps de partager ça. Je voulais juste finir, pour qu'on finisse ensemble ce petit moment de partage par un psaume, une lecture d'un psaume. Alors, c'est pas n'importe quel psaume non plus. Je disais tout à l'heure que le psaume 1 n'est peut-être pas pour rien le psaume 1 puisqu'il est centré sur l'écriture. Là, ce que je voulais vous lire, qu'on va pas lire en entier bien sûr, c'est le plus long psaume. Et c'est peut-être pas un hasard non plus si ce plus long psaume, son thème central, c'est l'écriture. Alors, je voulais lire quelques versets comme ça. Je vais lire peut-être pendant 2-3 minutes, on va voir. Puis, je vous invite, si vous l'avez sous vos yeux, à prendre le psaume 119 avec vous. Et puis, peut-être ce soir, de le relire en entier. C'est lu rapidement. C'était un long psaume, mais c'est lu rapidement. Et de le lire peut-être à haute voix et de le lire en mettant le cœur, en mettant le ton. Et vous allez voir cette amour de David, si c'est David qui l'a écrit, en tout cas du psalmiste, pour l'écriture. Et c'est, je trouve que c'est merveilleux. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, dans leur chemin, et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère, de ma bouche, hein, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Sur la terre, je suis un étranger. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Je ne sais pas si on peut faire pour nous-mêmes cette expression. Mon âme est brisée par le désir qui toujours le porte vers ta parole. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Au verset 24, tes préceptes, tes paroles font mes conseillers. Verset 25, et j'arrêterai là. Mon âme est attachée à la poussière. Et je pense que dans cette période, un petit peu, les gens se rendent compte aujourd'hui, même les non-croyants, se rendent compte que finalement, la vie, ben, est peu de choses, que tout ce qu'on construit dans le monde, ben, tout est relatif, que tout peut s'écrouler en un jour, que un petit virus peut apparaître, un tout petit virus microscopique, et plus de la moitié de la Terre se trouve en confinement. Incroyable. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole, selon ta parole. Voilà, donc je voulais tout simplement vous partager ce matin, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dieu pourvoit au pain. Dieu pourvoit au pain. Et Dieu va pourvoir pour nous tous pendant cette période difficile de confinement où peut-être les salaires pour certains baissent, etc. Dieu va pourvoir, ça j'en ai aucun doute, parce que Dieu est bon, Dieu pourvoit. Mais l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen.
Merci Joël, merci beaucoup.
Merci beaucoup Joël. Merci. Merci beaucoup. Quoi de mieux que de